Alors, vente d'un emplacement de parking 3 bis Grand Place au profit de Monsieur C. Tu en dis un mot?
C'est un parking, c'est un emplacement qu'on a acquis en septembre 2003. Aujourd'hui, cet emplacement donc ne nous sert plus, hein, et on a décidé de le vendre. Et on a entamé toutes les démarches nécessaires. Voilà.
Et donc, ça a été vendu 5000 euros après publicité. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Aménagement toujours. Rétrocession de plusieurs emprises foncières par l'ASL des patios du Golfe et classement dans le domaine public communal. Monsieur Citizac.
Écoutez, on a déjà donc les patios du Golfe ont déjà rétrocédé une partie des voies communales, hein, et aujourd'hui ils ont décidé de tout rétrocéder, donc nous reprenons tout.
Voilà. Donc vous avez le détail de l'ensemble des parcelles. Y a-t-il des questions sur ce sujet?
Oui, madame. Allez, excusez-moi, juste une question qui va de soi, mais je pense que M. Serge Citizac a la note correspondante. En clair, la question traditionnelle, quand rétrocède, ça coûte combien en entretien à la commune, à la louche, par an? C'est informatif, hein, moi je suis tout à fait favorable
en fait,
à ça.
En fait, ça dépend des surfaces qui sont rétrocédées.
Globalement, vous avez dû faire une fiche.
Mais globalement, effectivement, ça va nous coûter entre 100 et 200 000 euros à peu près par an de plus.
Combien, j'ai pas entendu?
100 000 euros.
100 000 euros.
Parce qu'on a des grosses surfaces quand même. Il n'y a pas que des espaces verts, il y a de la voirie, il y a l'éclairage public.
C'est une question informative, c'est important. 100 à 200 000 euros. D'accord.
Et donc ça, c'est des engagements effectivement que l'on prend. Alors dans le budget des techniques, c'est une toute petite part de l'ensemble des dispositifs. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un système qui coûte forcément la ville. Hein. D'autres questions? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, ressources humaines, mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Nouguerol.
Oui, monsieur le maire, merci. Comme il est très clairement expliqué dans la note. Merci. Le tableau des effectifs est une photographie à un moment donné de la liste des grades occupés dans une collectivité. Dans mon souci de faire correspondre les postes créés au conseil municipal avec les grades réellement occupés, il convient de procéder à la suppression de postes de tableau des effectifs. Alors, sans rentrer dans trop de techniques, il convient donc de supprimer des postes vacants libérés par des agents ayant muté et ayant été remplacés par des agents d'un autre grade. De même, les postes vacants des agents ayant bénéficié d'une intégration directe dans un nouveau cadre d'emploi et dont l'ancien grade est resté vacant sont également à supprimer. Ça veut dire qu'au bout du bout, cette opération qui a été menée par notre nouveau responsable des ressources humaines, M. Lacombe, que je tiens à féliciter par rapport au travail, puisqu'en fait, vous comparez systématiquement l'ensemble des feuilles de paye qui sont produites par la mairie, savoir si les grades correspondent bien au poste. Donc voilà, on s'est posé sur il s'est posé sur 400 feuilles de paye pour rapprocher les choses. Donc cette disposition a reçu l'avis favorable du comité technique de la semaine dernière sur l'ensemble des syndicats et des gens présents, et donc consiste à supprimer 101 postes qui aujourd'hui font partie de ce tableau des effectifs. Et vous en avez donc le détail, donc sur la filière administrative 23, sur la filière technique 26, sur la filière sociale 14, sur la filière médico-sociale 13, filière sportive 2, filière culturelle 5, filière d'animation 2, et enfin sur la filière sécurité 16. Voilà.
Alors, je rappelle, effectivement, pour qu'on soit clair, ce ne sont pas des suppressions de postes actifs, budgétisés. Hein. Mais par contre, ça nous permet effectivement de toiletter notre tableau des effectifs. Le dernier toilettage avait été fait lors du transfert des enseignants de musique à Marnay-Gondoire, mais on ne s'était pas occupé, je dirais, des autres filières. Et c'est vrai que c'est un travail absolument de fourmi, mais qui était nécessaire, c'est-à-dire que maintenant, nous avons une cartographie, une visibilité de l'ensemble des postes actifs au sein des agents de Bussy-Saint-Georges. Y a-t-il des questions? Contre? Abstention. Merci beaucoup. Alors, attribution de la prime de responsabilité au directeur général des services. Donc, en raison, alors ça c'est statutaire, en raison des risques, entre guillemets, pris dans la fonction de directeur général des services, une prime de responsabilité actée. Cette prime, je dirais, doit être créée en conseil municipal pour être versée, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc nous régularisons la situation en créant cette prime de responsabilité pour le directeur général des services, et qui correspond au maximum à 15% du traitement indiciaire. Y a-t-il des questions ? Madame Cordotti.
Oui, je pense que vous allez me dire que c'est légal, mais on peut voter le principe sans avoir le montant.
Ah oui,
la prime.
Parce que le montant est individualisé en fonction du traitement indiciaire du directeur général des services, et ça c'est une donnée bien évidemment confidentielle.
Ok. Et autre question pour ma gouverne, il y a un directeur général des services
oui,
à la mairie
absolument.
Dans nos effectifs.
Absolument. Souvenez-vous, lors du avant-dernier conseil municipal, nous avions pris, je vous avais donné l'information de la décharge de fonction de M. Schmitt. Donc M. Schmitt, aujourd'hui, dans l'attente de son départ, est redevenu ingénieur territorial sur une mission que je lui ai donnée et qu'il a acceptée. Et donc, le poste fonctionnel de directeur général des services, hein, vous êtes soit dans la filière technique, soit dans la filière administrative, attaché territorial, faisant fonction de DGS, donc c'est cette fonction de DGS a été donc libérée 6 mois après l'installation de la nouvelle municipalité. Donc aujourd'hui, M. Schmitt est ingénieur territorial. Y a-t-il d'autres questions ? Contre ? Abstention ? Merci. Scolaire, renouvellement de la convention relative à l'accès des enfants de la commune de Bussy-Saint-Martin au groupe scolaire et aux loisirs de la ville de Bussy-Saint-Georges. Madame Jarot-Tirotte.
Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Nous accueillons sur la ville de Bussy-Saint-Georges, dans les groupes scolaires, la restauration scolaire, les études, le périscolaire, les enfants de Bussy-Saint-Martin. Ces enfants sont essentiellement accueillis, pour 80% d'entre eux, sur Guibert. Cette année, ils sont au nombre de 52. Les familles aujourd'hui correspondantes bénéficient du quotient familial de Bussy-Saint-Georges. La différence entre les coûts réels et les coûts calculés avec les quotients familiaux est pris en charge par la mairie de Bussy-Saint-Martin. Et il convient tout simplement de renouveler la convention relative à l'accès de ces enfants de la commune de Bussy-Saint-Martin au groupe scolaire et au centre de loisirs de la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc, un projet de convention a été annexé et il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la convention et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer la dite convention.
Y a-t-il des questions ? C'est quelque chose qu'on renouvelle régulièrement avec nos amis de Bussy-Saint-Martin pour accueillir ces enfants.
Il n'y a pas eu de changement,
de toute façon. Oui.
Oui. Il n'y a pas eu de changement.
Non, non, il n'y a pas de changement. Madame Brunel.
Non, peut-être juste une petite... où j'ai mal compris ce que disait Madame Jarot-Tirotte, mais la ville de Bussy-Saint-Martin ne prend pas en totalité le coût des enfants de Bussy-Saint-Martin.
Non, non, non. C'est pas ce qui a été dit. Hein.
Ah bon, excuse-moi, j'ai mal compris, d'accord. Non, non, excuse-moi. J'ai compris que Bussy-Saint-Martin prenait en totalité les coûts supplémentaires.
Non, non.
On est bien d'accord, c'est pas le cas.
Non, non, c'est pas
voilà,
le cas.
C'était tout, j'ai mal compris, voilà. Voilà, on est bien d'accord ensemble.
Absolument.
Voilà.
Y a-t-il des questions par rapport à d'autres questions ? Contre ? Abstention ? Merci beaucoup. Alors, convention école multisport, Madame Roujas.
Oui, donc sur le même principe que le point précédent, il s'agit de renouveler donc la convention avec le IS, convention tripartite avec le département. Donc c'est la même convention que tous les ans, donc la ville met à disposition les locaux et c'est le département qui verse la subvention.
Donc, pareil, depuis des années, effectivement, nous avons ce type de convention. Y a-t-il des questions ? Contre ? Abstention ? Merci beaucoup. Subvention exceptionnelle aux associations aérobiques Vital Club, Vita Club et Criolis. Madame Rojas.
Donc il s'agit de soumettre au vote deux subventions à caractère exceptionnel. Donc pour la première, c'est pour l'association aérobique Vita Club concernant la participation aux championnats de France qui se sont déroulés en mai dernier. Donc, ils nous ont envoyé leurs frais de transport et d'hébergement, et donc nous les subventionnons sur facture pour le transport, donc qui était un bus. Voilà. Et pour la deuxième subvention, c'est donc pour l'association Créolis, qui va participer au carnaval de Bussy-Saint-Georges l'année prochaine, et donc c'est une subvention de départ pour leur permettre de commencer à acheter du matériel pour la confection des costumes.
Très bien. Y a-t-il des questions? Donc les montants 2350 euros et 1000 euros pour la seconde association. Ouais. Contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, participation financière de la communauté d'agglomération de Marne-et-Rondon en forme de l'emploi 2017. Monsieur Chilewski.
Merci Monsieur le maire. Alors je vous rappelle donc que nous avons organisé un forum de l'emploi au mois de juin qui a très bien marché puisqu'on a eu cette année environ 2000 visiteurs. Pour financer ce forum de l'emploi, nous avons touché deux subventions. La première de 10 000 euros de la région Île-de-France, donc merci à Charles pour l'aide qu'elle nous a apportée. Et nous avons obtenu de Marne-et-Gondoire une subvention de 32 000 euros. Simplement, il se trouve que pour encaisser cette subvention de 32 000 euros, ben, au lieu de dire simplement envoyer une chèque et puis on le met à la banque, non, ce serait trop facile, c'est merveilleux pour l'administration française, il faut élaborer pour ça, on appelle ça une convention de participation financière au forum de l'emploi. Voilà. Donc, je vous demande de voter pour l'approbation de cette convention de participation financière.
Alors, ce qui est bien, c'est aussi, et Alain est trop humble pour le dire, c'est qu'on a quand même des bilans de ce forum des associations qui est redoutable. On a accueilli plus de 2000 personnes, contre 1500, je dirais, l'année précédente. Nous avons eu des contacts directs pendant ce salon avec la DRH de Village Nature, notamment dans le cadre de recrutement direct, et de La Poste, qui a lancé son appel de recrutement de 35 postiers le jour même. Et donc, elle est repartie avec les CV, et on lui a prêté une salle deux jours après, et les 35 postiers ont été recrutés sur Bussy. Donc voilà, il y a un impact, je dirais, important. On a de plus en plus de personnes qui fréquentent. On avait collecté, je crois de mémoire, 2500 offres d'entreprises du territoire, hein, pas que de Bussy-Saint-Georges. Donc voilà, donc Marne-et-Gondoire a reconnu l'utilité publique de ce forum. Donc nous continuons à l'organiser sur Bussy-Saint-Georges avec une participation financière de la région Île-de-France et de Marne-et-Gondoire. Voilà comment se passe l'organisation de ce forum auquel vous avez bien sûr tous assisté en mars dernier. Monsieur Aguerre.
Oui, juste avant de terminer le conseil, j'aurais une question à vous poser.
Oui. Donc, absolument. Alors, on en est où là? Ah, bah oui, on a terminé. On n'a pas voté encore.
Il faut que je mette les lunettes
alors,
pour ça.
Pour cette convention, participation financière avec la CMG pour le Forum de l'Emploi 2017, contre, abstention, merci beaucoup. Monsieur Aguerre.
Oui, donc, il y a eu au mois de juillet, de mémoire, une réunion concernant la fameuse antenne qui est à côté du...
Ah oui.
La ferme de la Jonchère,
oui.
Sur cet aménagement, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit très esthétique. Et donc, moi, j'étais interpellé et oui. J'aimerais pouvoir répondre aux personnes qui m'ont interpellé sur les débouchés, les options qui ont été retenues ou s'il n'y a pas d'options retenues.
On a fait effectivement, suite à la demande de l'ASL, une réunion publique le 21 avril, je crois, de mémoire, et en présence d'Orange, notamment de l'installateur. Et donc, cette réunion, c'est très mal passé, puisqu'effectivement, il y a une opposition frontale de l'ensemble de l'ASL, et pas simplement des riverains directs impactés par cette antenne du trentaine de mètres. C'est bon, tu peux...
Tu peux rentrer à la maison.
On a fini les votes. Mais Edouard travaille dans l'événementiel, donc forcément, effectivement, il ne maîtrise pas son planning. Mais en tout cas, bienvenue. Donc, pour revenir, donc 21 avril, on fait une réunion et dans laquelle on aboutit à deux choses. Un, l'habillage de cette antenne. Est-il possible de l'habiller autrement que la peinture qui a été faite et qui n'est pas forcément du meilleur goût? Réponse d'Orange en cours de réunion, ce n'est pas possible. Et deuxième question posée par les riverains, le coût envisagé par Orange de la destruction-reconstruction d'une antenne, soit au même endroit, mais moins haute. Et surtout, troisième question, le périmètre d'irrigation de cette antenne. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde les schémas d'Orange, on est surtout sur Chanteloup et très peu sur Bussy. Donc la question était de savoir effectivement pourquoi la poser à cet endroit-là. Donc, au lendemain de cette réunion, j'ai écrit à Orange pour demander l'ensemble des précisions et surtout de répondre à la question ou aux questions qui étaient posées. Orange me répond quelques semaines plus tard sans, bien évidemment, répondre aux questions posées. Donc, on se dit, dans ces conditions-là, effectivement, je n'accepterai pas de signer le branchement. Ce que fait Orange en plein mois de juillet-août, il défère ma décision au tribunal administratif. Le tribunal administratif me dit, PC conforme, donc vous devez brancher l'antenne pour qu'elle puisse fonctionner, que l'opérateur puisse avoir sa diffusion. Sauf qu'en regardant, je dirais, ce dossier, donc il n'y a toujours pas de réponse à la question posée, habillage supplémentaire. On avait même proposé le plantage d'arbres autour pour camoufler un petit peu le truc. Donc, absence totale de réponse d'Orange. Donc, il nous envoie quoi ? Un déféré au tribunal administratif. Et le déféré, je dirais, tel qu'il était posé par la question d'Orange, nous rend, nous, sous astreinte, l'obligation de le brancher. En reprenant le dossier complet, on se trouve avec des irrégularités sur le permis de construire. Et ces irrégularités avaient été constatées à l'époque par un rapport de police municipale qui constatait notamment que les panneaux sur le permis de construire étaient en plein milieu d'un bosquet, donc pas visibles. Qu'il y avait effectivement des prescriptions environnementales qui n'avaient pas été actées dans le permis de construire. Donc, on découvre comme ça différentes irrégularités dans le permis de construire, sûrement sur la précipitation du dossier. Et donc, j'ai écrit au tribunal administratif et j'ai réécrit à Orange pour lui dire que, au vu de ces raisons techniques, purement techniques, je ne brancherai pas l'électricité pour cette antenne. Donc, ils vont m'attaquer au tribunal administratif au vu de la réponse négative. Mais là, c'est argumenté juridiquement. Le rapport de la police municipale avec photo, ne serait-ce que sur le dépôt du permis de construire dans les bosquets, est de nature, je dirais, à pouvoir faire tomber le dispositif. Donc j'attends la réponse d'Orange et la réaction d'Orange par rapport à ce courrier-là. Et ce courrier date du 8 septembre. Donc ce que l'on va faire dans les jours qui viennent, puisque les premiers courriers, nous avions fait des copies, nous l'avions distribué dans l'ASL pour que l'ASL, comme on s'y était engagé, puisse avoir tous les arguments. Donc le 8 septembre, on va refaire la même chose sur ce courrier. Pour l'instant, j'ai toujours pas la réponse d'Orange. Donc je pense qu'ils sont en train de voir avec leurs avocats pour attaquer la ville. Et donc on va diffuser ce courrier de début septembre à l'ensemble des riverains pour montrer que nous contre-attaquons sur le dossier juridique cette fois-ci. Et je refuse pour l'instant de brancher l'antenne. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que si le PC, malgré les délais de recours, et notamment sur le fait qu'il n'y a pas eu réellement de visibilité du dépôt, de l'affichage plutôt du permis de construire, est de nature, pour moi, en tout cas pour nos avocats, à faire tomber complètement, sans jeu de mots, cette antenne. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et je pense qu'effectivement d'ici 15 jours, j'aurai la réponse circonstanciée d'Orange. Okay. Monsieur Canin.
Peut-on savoir de quelle ASL il s'agit ?
Alors l'ASL, j'ai plus le nom. C'est celle qui est juste de l'autre côté. Je vous donnerai le nom, mais je l'ai plus en tête là. J'ai plus l'ASL. C'était celle qui était.
C'est peut-être celle qui est quand on descend à droite.
Quand on descend à droite, c'est celle qui est en fait.
C'est pas celle de gauche parce que j'en suis secrétaire.
Non. Effectivement, celle de droite. J'ai plus le nom de l'ASL, mais je me souviens de la présidente qui était venue nous voir en réunion. Et donc, je vous donnerai le.
Ça correspond à des maisons qui sont situées ou qui sont.
En fait.
Côté gauche de la route.
C'est ça. Donc quand tu descends, c'est à droite, et quand tu remontes, bien sûr, c'est à gauche. Absolument. Qui, eux, ont une visibilité.
C'est un lotissement Kaufmann.
C'est ça. C'est ça.
Moi, je voulais simplement ajouter qu'en tant que président de la SL Parc de la Jonchère, donc Kaufmann, mais de l'autre côté, j'étais intervenu auprès des services de la mairie il y a un peu plus d'un an, pour signaler qu'il y avait eu, suite à des gros orages sur notre zone, des maisons qui avaient subi des gros dommages oui. Des dégâts sur leur poste réception électrique, etc.
Oui.
Et s'était posé la question, qui avait d'ailleurs été posée à l'époque à M. Rondeau, qui n'avait pas répondu, de la protection de cette zone contre les orages. Il m'avait été répondu, justement, que l'édification de cette antenne, qui serait équipée d'un paratonnerre assez puissant, permettrait de couvrir cette zone de la ville qui n'est pas protégée, car actuellement il y a deux paratonnerres, enfin il y avait précédemment deux paratonnerres, un sur l'église de Bussy, la nouvelle église, et un sur le vieux village, et que donc cette partie de la ville n'était pas protégée. Donc, ok, il y a une opposition de la part...
Un paratonnerre de 34 mètres, ça fait un peu beaucoup, quoi.
Oui, mais est-ce que si on exige la destruction et la reconstruction, est-ce qu'on aura toujours un équipement qui nous permettra d'assurer une sécurité alors, contre la foudre?
Ça, c'est une vraie question, effectivement, ça je vais regarder. L'objectif, c'est le positionnement au meilleur endroit de cette antenne au vu de l'irrigation du maximum de Bux-en-Jorgien. Je suis désolé, effectivement, c'est sur le territoire de Bussy. Pour irriguer une partie des champs qui se retrouvent à Chanteloup. Donc c'est vrai que le positionnement, d'ailleurs la personne d'Orange, l'ingénieur qui était présent, dit que ce n'était pas forcément la meilleure hauteur et le meilleur endroit. Donc moi ce que je demande aujourd'hui, ce n'est pas de savoir effectivement où on va la placer, c'est que cette antenne-là, à cet endroit-là et à cette hauteur-là, entraîne une opposition formelle de la population. Ça c'est un problème, à la limite le juge administratif a déjà rendu sa décision, sauf que là on est sur un problème juridique, de non-conformité de l'affichage du permis de construire, notamment. Donc là, on est plus sur un problème juridique qui va entraîner exactement la même conséquence, c'est que si le juge nous suit, il devra, Orange devra enlever cette antenne. Et les habitants de l'ASL avaient aussi prévenu Orange que le coût de défaire cette antenne et d'en construire une autre n'était pas celle invoquée par Orange. C'est-à-dire qu'Orange dit, attendez, tout ça, ça va coûter 250 000 euros, donc vous comprenez que c'est pas possible. Et les études qui avaient été faites sur d'autres antennes qui ont subi à peu près la même chose, c'était 50 000 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes dispositifs. Alors, comme il y a deux extrêmes, on va prendre la moyenne des deux, parce que la vérité est toujours au centre, sans jeu de mots, donc ça veut dire qu'effectivement, on va trouver la solution. Mais je dirais, la problématique aujourd'hui, elle est double. Un, juridique. Deux, la question de la santé publique a été aussi posée. Et aujourd'hui, les études sont très contradictoires sur les effets des ondes sur les populations. Alors on sait que maintenant les ondes ne descendent plus mais montent. Il n'empêche qu'il y a la possibilité de demander la saisine soit par les riverains, soit par la mairie ou par les deux, d'une étude faite par un cabinet dit indépendant qui va démontrer ou pas, souvent il ne démontre pas, la nocivité des ondes électriques et électromagnétiques posées par ce type d'antenne. Donc aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude au-delà des aspects juridiques, il y a une vraie inquiétude de la population sur laquelle il n'y a pas de réponse apportée. Donc voilà, donc quand on mêle tout cela, c'est un dossier qui commence à devenir explosif, et donc on va tenir informés les personnes qui nous avaient saisis lors de cette réunion publique, de tous les tenants et les aboutissants. Donc ils auront copie du courrier que j'ai envoyé à Orange, mettant en évidence les irrégularités du permis de construire.
Monsieur le maire?
Oui. Ouais.
C'est un sujet qui est abordé, André, au comité de quartier des Saint-Arpans, puisque c'est ce quartier qui est concerné, dont je suis président. Et donc on aborde cette thématique et on fait le point sur l'évolution du dossier lors des différentes réunions donc avec les membres du comité.
Merci. Très bien. Oui.
Technique. Cette antenne a été implantée à côté de certains arbres qui ont à peu près une trentaine de mètres de hauteur. Pourquoi
n'ont pas eu
l'idée de 10 mètres à peu près, de la déplacer et de la mettre entre les arbres? Ça cachait tout.
C'est une bonne question. Mais le problème des arbres là-dessus, les arbres ne font pas 30 mètres, ils couvrent à peine la moitié de la taille de l'antenne. Donc ce que nous on avait proposé dans un premier temps, c'était et de voir que Orange puisse planter des arbres pérennes, camouflant quasiment la totalité de l'antenne. Donc c'était une des propositions. Après, l'évaluation financière a fait que ça n'a pas été possible et refusé par Orange. À Après, on avait dit, est-ce que c'est une histoire de peinture, de couleur ou autre? Mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure de la réunion, et au fur et à mesure surtout de l'absence de réponse d'Orange aux questions posées, là, ça a commencé effectivement à prendre une forme absolument, absolument désastreuse pour Orange. Parce que quand vous avez un ingénieur qui vient et qui dit bah, « je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas », donnant des approximations sur les chiffres, donnant des approximations sur les effets en matière de santé publique, donnant des approximations sur notamment la communication qu'Orange a pu faire auprès de la population, ça a été désastreux. Donc ce dossier-là, effectivement, aujourd'hui, il est explosif. Et bien évidemment, dans tous les cas, je suivrai l'avis de la population. Donc j'irai jusqu'au bout. Et donc nous avons déjà eu un jugement du tribunal administratif qui nous est défavorable, mais sur des motifs évoqués par Orange et pas par nous. Donc cette fois-ci, nous allons nous évoquer nos propres sujets. Et là, je pense qu'on a des arguments pour faire tomber le projet. Si ce n'est pas le cas, on retrouvera d'autres arguments. Très bien. Mes chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous lire. Hop. Les décisions que j'ai prises selon mes délégations. Alors, le 2 juin 2017, concession dans le cimetière, 8 terrains, 3 cases de columbarium. 7 juin 2017, fixation des tarifs de la danse du conservatoire. 9 juin 2017, appel d'offres ouvert, marché de conception, réalisation, impression pour divers supports de communication. 12 juin 2017, modification des actes de création de la régie d'avance et de recettes pour le service des sports et la vie associative. 13 juin, concession d'une case de columbarium. 13 juin toujours, signature d'un contrat de prestation de services d'hébergement et de maintenance applicable à l'application mobile de la ville de Bussy-Saint-Georges avec la société Lumiblanc. 14 juin, signature d'une convention d'honoraires avec le cabinet L'Héritier, avocat sur les bilans de ZAC et Pamarne, démarche de procédure de communication de dossier et la DSP chauffage urbain. 16 juin 2017, modification des actes de création de la régie d'avance et de recettes pour le service de cœur de ville. 26 juin, signature d'une convention pour les soins vétérinaires des équipes sinotechniques de la ville avec le cabinet SCP Leroux et Lacaz, situé à Bussy-Saint-Georges, ce qui n'était pas le cas précédemment. 30 juin 2017, MAPA, avenant numéro 2 du marché public de restauration des liaisons froides des structures d'accueil de la petite enfance. 18 juillet, désignation du cabinet Claes et associé, assistance d'un avocat pour un agent de la police municipale. 24 juillet, désignation du cabinet d'héritier, référé suspension engagé par la société Orange. 24 juillet, fixation des tarifs d'inscription multisport à compter de septembre 2017 et modalités de remboursement. 25 juillet, toujours, convention de formation professionnelle des équipes sinotechniques de la police municipale de Bussy. 25 juillet, mise en location du logement pour une durée n'excédant pas 12 ans, situé aux 4 rues Jean Monnet. 26 juillet, convention d'assistance juridique et de représentation en justice, notamment pour les problématiques de l'épicerie sociale, notamment sur le bail. 2 août 2017, désignation du cabinet d'héritier GS10, numéro 11, des compagnons d'Éric. 29 août 2017, création d'une régie de recettes publicitaires au service de communication. 29 août, tarification des espaces publicitaires pour les divers supports de communication de la ville de Bussy. 30 août, MAPA, marché maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs à ses équipements sportifs. Et enfin, 13 septembre, désignation du cabinet Claes et associés pour le dossier d'agent de la PM pour outrage à un agent public. Voilà. Mes chers collègues, prochain conseil municipal le 13 octobre. Je vous remercie.